Bien-aimés, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste avec nous. Amen. Nous clôturons ce jour la semaine de la Bible, la parole de Dieu, parole vivante, parole permanente, parole éternelle. Je voudrais, avant de commencer, dire que quand j'étais jeune, à l'école secondaire, j'ai appris à lire des livres. Et dans ma jeunesse, j'ai lu des romans policiers, des romans d'aventure, comme Oran, des romans, quand on les lisait, on ne pouvait pas arrêter de lire, tellement c'était captivant. Mais il y a 33 ans, j'ai découvert un autre livre merveilleux, c'est la parole de Dieu. J'ai pris du plaisir à lire cette Bible. Et chaque fois que je manque, je rate une occasion de lire la Bible un jour, ce jour-là est un jour perdu. Alors lorsque nous consacrons toute une semaine sur la Bible, et que nous invitons toute la congrégation à prendre part à ces enseignements de la semaine, c'est que nous avons un objectif. Ce matin, je vais essayer de faire une synthèse de quelques enseignements que nous avons suivis, parce qu'il y en a qui ont décidé de ne pas venir, ou étaient empêchés. Mais le thème de ce matin, c'est les bénédictions qui accompagnent la mise en pratique de la parole de Dieu. Les bénédictions qui accompagnent la mise en pratique de la parole de Dieu. Je voudrais que nous lisions ensemble le psaume 112. Heureux l'homme qui craint le Seigneur et qui aime ses commandements. Sa lignée est puissante sur la terre, la race des hommes droits sera béni. Il y a chez lui bien-être, bien et richesse, et sa justice subsiste toujours. Dans l'obscurité s'élève la lumière, pour les hommes droits, il est juste, bienveillant et miséricordieux. L'homme fait bien de combattre et de prêter, il gérera ses affaires selon les droits. Pour toujours il sera inébranlable, on gardera toujours la mémoire du juste. Il ne craindra pas les rumeurs méchantes, les cœurs assurés, il compte sur le Seigneur. Le cœur ferme ne craindra rien et il peut toiser ses ennemis. Il a donné largement aux pauvres, sa justice subsiste toujours, son front se relève avec fierté. L'impie le voit, il enrage, il graisse des dents et s'effondre. Les souhaits des impies sont réduits à néant. Parole du Seigneur. Bien-aimés, les deux longues lectures qui ont été faites font partie des enseignements de la semaine. Le premier jour, il était question des livres de Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25, où la parole de Dieu nous dit que la force de la parole de Dieu, ou la puissance de la parole de Dieu, est découverte quand on prend plaisir à lire la parole de Dieu. Parce que plus elle est lue, plus elle est obéie par les croyants, ces croyants-là voient son âme purifiée. C'est-à-dire que nos vues sont entachées au péché et au mal, et la seule manière de voir ce mal être, commencer à être extirpé dans notre vie, c'est l'exposer à la parole de Dieu. Cette parole qui est une semence incorruptible, c'est par elle que Dieu nous a régénérés pour devenir des créatures nouvelles. Et une fois que nous sommes devenus des créatures nouvelles, cette parole vivante a un rôle important à jouer dans notre quotidien pour que nous puissions mener à bien cette nouvelle expérience avec le Seigneur. Le mercredi, il était question de lire Néhémie chapitre 8, versets 5 à 15 et Matthieu 4, versets 1 à 10, où Esdras s'élève, se met à la tribune et fait une lecture publique de la loi du Seigneur. Il y a là Néhémie, il y a là Esdras, les scribes, il y a là aussi les Lévites qui se mettent à expliquer pour une judicieuse interprétation de la loi. Et une fois que cette explication est faite, les gens étaient confondus. Ils ont commencé à pleurer, à verser des larmes. Je ne sais pas si vous arrive de pleurer sur vous-même pendant que vous lisez la parole de Dieu. Si cela n'arrive pas, il y a un problème. Il y a un problème. C'est ainsi que Néhémie se lève pour dire, ce jour-ci n'est pas un jour de pleurs, mais c'est un jour de joie, un jour de réjouissance, un jour il faut partager avec ceux qui sont en situation de détresse. Le discernement de ce que le Seigneur veut dire n'a été possible que par l'intermédiaire des scribes qui étaient les théologiens de l'époque, des hommes de Dieu qui étaient capables d'interpréter judicieusement la parole de Dieu pour que ça change les comportements de ceux à qui cette parole est adressée. Les jeunes, nous avons fait une étude biblique sur Deutéronome chapitre 26 qui venait d'être lu. Et vous allez constater, dans cette longue lecture, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a le fait que les enfants d'Israël s'engagent, sont entrés dans terre, en terre promise. Et une fois qu'ils entrent en terre promise, ils sont invités à faire deux choses importantes. La première, c'est de venir avec les prémices de leur première récolte. Il leur a rappelé qu'ils devraient prendre les premiers de tous les produits de leur récolte, les mettre dans une corbeille et aller vers le prêtre en fonction ce jour-là et faire une déclaration. Il y a donc une liturgie des prémices pour se rappeler ce qu'on a vécu par le passé, les drames qu'on a connus, la manière dont Dieu est intervenu dans l'histoire des enfants d'Israël. Alors que Jacob était presque perdu dans une vie nomade, c'est-à-dire perdu en train de périr, Dieu a eu pitié d'Israël et Dieu a sauvé Israël en faisant d'Israël une grande nation. Ça part d'Abraham, ça passe par Isaac, ça arrive à Jacob qui sera appelé lui-même Israël et le peuple portera le nom d'Israël. Alors c'est un signe de reconnaissance pour la bénédiction qu'on a reçue, qu'on amène les prémices et on fait une déclaration devant le Seigneur. Peut-être que nous ne sommes pas des agriculteurs, mais si tu es en chômage et que tu demandes à Dieu de te donner du travail, c'est-à-dire que le premier salaire, ça appartient à qui? À Dieu. Alléluia. Ah, mais il y a le prophète qui dit ça. Le premier salaire, si tu l'as demandé vraiment à Dieu, donne-moi du travail, ce premier salaire reviendra à l'Éternel. Il faut l'amener au prêtre, au pasteur qui sera en fonction ce jour-là. Deuxième chose, la dîme. La dîme est soulignée comme devant être orientée vers des personnes d'une certaine vulnérabilité. Il s'agit de prêtres, de lévites. Il s'agit deuxièmement des veuves, troisièmement des orphelins, quatrièmement des émigrés. Et en venant avec cette dîme la troisième année et les rassembler, il dit, je n'ai rien gardé dans ma propre maison qui soit impur, qui soit pur. De peur que je ne rende impur ma maison, je ne dois pas garder la dîme dans ma maison. Une manière de nous rappeler que quel que soit le revenu qui est le nôtre, manger le 9 dixième, mais pas le 1 dixième, ça ne vous appartient. Il y a aussi une certaine liturgie des paroles qui sont prononcées. J'ai souvent vu ça ici à Goma, où lorsque quelqu'un amène sa dîme, il dit à la caisse qu'on me dise qu'on a amené la dîme pour que je fasse quoi? Pour que j'ai pris, n'est-ce pas? Pour que j'ai pris pour celui qui a amené cette dîme-là. Et depuis 2 mois maintenant, nous avons décidé de commencer à prier à la fin du mois pour ceux qui ont amené Berti. Mais ces livres étaient orientés, je le rappelle, bibliquement parlant, vers les personnes défavorisées. Les Lévites, les veuves, les orphelins, les émigrés. C'est orienté vers des personnes comme des Lévites qui n'avaient pas de part foncière, d'héritage foncier en Israël. La solidarité avec des personnes en détresse est donc démise parce que Dieu est un Dieu compatissant. Le samedi donc, Deutéronome chapitre 4, verset 5 à 9, il était question de rappeler aux enfants d'Israël de garder et mettre en pratique les lois et les coutumes pour être un peuple sage, un peuple intelligent. Vous vous rappellerez que le psaume 119, verset 98-99 disent « Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis, ton commandement me rend plus avisé que mes maîtres. » Un jeune homme, une jeune fille, un papa ou une maman qui décide de mettre en pratique la parole de Dieu, la conséquence est qu'il sera sage. Pour mener à bien sa vie, pour mener à bien la vie de sa famille, s'il est responsable de famille, pour mener à bien sa profession. Donc, il y a donc des bénédictions qui sont là pour ceux qui mettent, qui sont garanties pour ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alors, quelles sont les bénédictions qu'on peut rappeler encore ce matin par rapport à ces deux textes de Psaume 112 et Deutéronome 28, verset 1 à 14 que nous venons de lire. J'étais surpris en lisant le premier verset du psaume 112 qu'il est dit « Heureux l'homme ». Dans les Seigneurs, ça commence par « Heureux l'homme ». Dans la Théobé, ça commence aussi par « Heureux l'homme ». Dans lui second, ça commence aussi par « Heureux l'homme ». Et dans la Bible, j'ai une version qu'on appelle « The Bible ». C'est aussi « Heureux l'homme ». Donc il y a un bonheur promis, n'est-ce pas? Il y a un bonheur promis, garanti, vous laisse dire, pour toute personne, homme ou femme, qui se met à révérer l'Éternel, à craindre l'Éternel, pas avoir peur de l'Éternel, à craindre, à respecter l'Éternel, à le faire respecter, en prenant plaisir à mettre en pratique ses commandements. Quel bénéfice on en tire? Quel bénéfice peut-on tirer à mettre en pratique la parole de Dieu? Le verset de Psaume 112 dit que la lignée de cette personne-là sera puissante. C'est-à-dire que ses enfants seront influents dans le pays. Ce sera une race de héros. Deuxième bénédiction dans sa maison. Sur verset 3, il y aura abondance et richesse. Dans une autre version, on dit il y aura bien-être et aisance. Mais au verset 4, vient une série d'autres bénédictions, ça est là jusqu'au verset 9. Au cœur des ténèbres, celui qui met en pratique la parole de Dieu se lèvera pour lui une lumière. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en temps de crise, en temps de maladie, en temps de chômage, dans une situation où les affaires ne marchent pas, il faut toujours reconnaître que cela n'est pas le dernier mot de Dieu. Que bientôt se lèvera une nouvelle aurore. Parce que s'il y a eu vendredi saint s'est arrêté et il a été remplacé par le dimanche de Pâques. Donc les ténèbres ne régneront pas toujours, vient après la lumière. Au verset 7, il est souligné qu'il n'a pas de crainte des mauvaises rumeurs, des mauvaises nouvelles. Il reste serein, assuré, parce que Dieu garde sous contrôle toute la situation. Les justes ne craignent pas les mauvaises rumeurs. Nous sommes presque court-circuités par les mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Par les réseaux sociaux. Tout le temps, on est court-circuité par les mauvaises nouvelles, mais il faut rester serein. Mais ne peut rester serein que celui-là qui prend plaisir à lire et à garder, à mettre en pratique la parole de Dieu. Il porte en lui une certaine énergie qui lui permet d'avoir une capacité de tenir. Au verset 8, il reste ferme dans sa position. C'est-à-dire, il est inébranlable au mal qui agite les gens autour de lui dans notre société. L'injustice qui bat son plein. Et ce verset-là souligne que même quand il sera mort, il restera en bénédiction. Alléluia. Et au neuvième, d'un cœur compatissant, il donne largement aux indigents et malheureux. Et cela lui donne l'approbation à la fois de Dieu, mais aussi l'honneur des hommes. Parce qu'il a un cœur compatissant. Un cœur qui est frappé par la souffrance, la détresse des autres autour de lui. Bien-aimé, ce chapitre ici nous aide à comprendre que pour les justes dont la vie est entraînée dans la dynamique de la mise en pratique ou l'obéissance de la parole de Dieu, il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas de crainte. Il reste rassuré que Dieu veille sur sa famille dès son vivant, même après sa mort. Même après sa mort. Il faut donc construire par notre, chacun de nous, par notre manière de vivre notre foi, construire un avenir heureux, un avenir stable pour ceux-là qui dépendent de nous, qui même quand nous ne serons plus là, vont bénéficier de toutes ces grâces. Ça vaut pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, ça vaut aussi pour les mariés qui sont ici. Dieu veille sur la famille, du vivant comme après la mort. Il veille aussi sur nos biens, c'est ce que ce passage souligne. Mais il veille aussi sur toutes les circonstances de notre vie. Il y a donc deux sortes de bénédictions. Du verset 2 au verset 3, il est question des bénédictions temporelles. Mais le verset 4 au verset 9, il est question de la richesse spirituelle de la vie du fidèle de l'Éternel. Le fidèle de l'Éternel est soutenu par le Seigneur. Il n'est pas dit qu'il ne connaîtra pas les moments difficiles. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu souligne. Parce qu'il y aura les triomphes du mal, comme on les voit dans notre société. Les triomphes de la corruption, qui va jusque à la gestion, au niveau le plus élevé de la gestion de l'État. On les voit dans les secteurs publics comme dans les secteurs privés. Les Congolais ont même inventé une expression, je ne sais pas si c'est dans les dictionnaires, comment je vais me retrouver. J'ai entendu des gens qui disent, ça, j'ai retrouvé aïe. Dans ces moments-là, ce n'est pas l'occasion de réfléchir, d'abandonner ses convictions, d'abandonner ce qui nous donne le droit de continuer à être ce que le Seigneur voudrait que nous soyons, comme cela a été le cas pour Joseph, comme cela a été le cas pour Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, comme cela a été le cas pour les apôtres persécutés à cause, pour la cause juste, même pour Jésus qui a été persécuté mais mis à mort parce qu'il voulait vivre et tenir dans la vérité. Bien-aimé, il y a donc des bénédictions qui sont en réserve. Deutéronome 28, que nous venions de lire, je ne vais pas revenir à tout ce qui a été dit, mais il est question ici dans ce passage de souligner que Dieu est un Dieu d'alliance. Parce qu'il est Dieu d'alliance, L'alliance devient comme un contrat entre deux parties. D'un côté Dieu, de l'autre côté le peuple élu par la grâce. Israël a été élu et c'est par la loi qu'Israël est lié à Dieu. Nous, Église, nous sommes élus en qui? En Christ Jésus, par la grâce du Seigneur. Mais Dieu garantit un foisonnement de bénédictions qui vont être une réalité dans l'histoire d'Israël si Israël se maintient dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Dieu affirme fondamentalement que tous les secteurs de la vie d'Israël seront touchés par la bénédiction de Dieu. Les sols, les enfants qui viennent du sein d'un Israélite ou d'une Israélite, les bêtes, toutes les entreprises. Mais plus que cela, Israël sera élevé au-dessus de toutes les nations et il aura une certaine supériorité en honneur, en splendeur, en renommée par rapport à toutes les nations. L'année passée, j'étais en Europe et puis une journaliste m'a posé une question. Elle m'a demandé qu'est-ce que vous dites du fait que les Occidentaux se sont détournés de l'Église, parce que ce sont peu nombreux qui viennent encore à l'Église. Elle a dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, ça me choque. Et elle a posé la question, pourquoi? J'ai dit, parce que la civilisation occidentale repose sur la matrice qui est l'Évangile. C'est l'Évangile mis en pratique dans tous les secteurs de la vie qui a conduit l'Occident à la stabilité, à la croissance économique qu'il connaît jusqu'aujourd'hui. On pourrait même comprendre que les bénédictions de Dieu ne s'arrêtent pas à une génération, elles continuent de génération en génération. Et donc, ceux qui sont là en Occident aujourd'hui bénéficient de ce travail dur de leurs ancêtres, qui ont cru en Dieu, qui ont travaillé au nom de leur foi, qui ont imaginé des choses pour stabiliser, améliorer les conditions de vie. Et aujourd'hui, cela est resté. Bien-aimé, je donne juste cette petite exemple pour montrer que le sérieux que nous mettons dans notre marche avec Dieu, le sérieux que nous mettons dans le travail que nous avons à faire, nous pouvons peut-être nous rendre compte que nous ne sommes pas les directs bénéficiaires, mais il y a des gens après nous qui bénéficieront de ça. Alléluia. Et donc, il faut faire transpirer l'intelligence. Il ne faut pas se donner du répit. Pour travailler dur, étudiant travaille dur, occupe la position la plus élevée parmi tes collègues, au nom de la foi et de l'esprit qui habite en toi. Sur le plan professionnel, franchis les échelons qu'il faut franchir autant que cela est possible. Et cela ne peut avoir du poids que si tu as un nom, tu t'es fait un nom, tu t'es créé un nom, au nom de la foi que tu as en Dieu, du sérieux que tu as dans la marche avec le Seigneur, l'obéissance à Dieu, fais-toi un nom. Tu en bénéficieras pour la vie présente et d'autres bénéficieront pour la vie à venir. Je voudrais terminer en lisant 1 Timothée chapitre 6. Et je préfère qu'on commence par 1 Timothée 4, verset 7b à 8. Et ce sera 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 10. Je commence par 1 Timothée 4. Exerce-toi plutôt à quoi? À la piété. L'exercice corporel en effet est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à combien? À tout. Et là, la promesse de la vie présente, mais aussi la vie à venir. Exerce-toi la piété. L'exercice physique J'aime bien le sport. L'exercice physique est utile pour plein de choses. Mais l'exercice spirituel, la piété, est là la promesse. De quelle vie? La vie présente. Même aussi la vie à venir. Vous voulez garantir la stabilité de votre vie par les bénédictions que Dieu te donne. Il faut la piété, l'attachement à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. 1 Timothée 6, verset 6. Oui, elle est grand, elle est d'un grand profit. Quoi? La piété. Pour qui se contente de ce qu'il a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. De même, nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contentons. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les pièges de la tentation, dans les multiples désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livré, certains se sont égarés même de la foi et se sont transpercés l'âme des tourments multiples. Bien-aimés, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Nous n'avons rien apporté. Et nous n'en emporterons rien. Quand quelqu'un meurt ici chez nous, on dit « Amézi la biate ». C'est-à-dire qu'il peut avoir 10 paires de souliers. On va l'enterrer sans souliers. Il peut avoir une garde-robe garnie, mais il n'ira qu'avec un seul costume, un seul bal. Kinshasa, les gens ont inventé des trucs, ils ont commencé à acheter presque des portions de terre pour enterrer les gens. Et ils mettent là un téléviseur pour que celui qui est enterré puisse suivre la terre. Ce que la Bible stigmatise, ce n'est pas l'argent. Ce que la Bible stigmatise, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Aimer l'argent au point de ne pas partager avec les orphelins, de ne pas partager avec les veuves, de ne pas partager avec les serviteurs de Dieu, ça c'est grave. Aimer l'argent au point de bouffer les 10%. Même ce qui ne t'appartient pas, tu le bouffes. Tu risques de brûler ta maison en gardant le 1/10 qui est sacré. La Bible dit que l'argent est trompeur. Si vous lisez Luc chapitre 6, la Bible, l'argent est trompeur. L'argent est trompeur parce que il ne peut pas transformer notre faiblesse en force. Jamais. Il peut améliorer notre vie, nous amener dans des hôpitaux spécialisés, mais tôt ou tard, on fera quoi? On mourra. Notre fragilité ne peut pas changer ça en éternité. L'argent peut promettre le bonheur, la stabilité, la sécurité, la vie en abondance, mais il n'est pas en mesure de l'offrir à l'homme. Seule la piété a la promesse, la vie présente et la vie à venir. Que le Seigneur nous aide à nous exercer à l'obéissance à la parole de Dieu et à des bénédictions insoupçonnées pour le présent et pour l'avenir. Pour nous, pendant que nous sommes en vie, même pour nos descendants, de génération en génération. Amen.